Donc, Laurent m'a appelé devant et moi je vais appeler quelqu'un d'autre. Je profite d'être ici. Bonjour à tous, je suis ravie d'être ici. Je profite d'être ici pour demander à quelqu'un qui lit mieux que moi de venir nous lire le texte biblique du jour. Papa, si tu veux bien venir. Et on va lire dans Marc 7, vous pouvez déjà ouvrir vos Bibles, du verset 1 au verset 23.
Les pharisiens et quelques maîtres de la loi venus de Jérusalem s'assemblèrent autour de Jésus. Ils remarquèrent que certains de ses disciples mangeaient leur nourriture avec des mains impures, c'est-à-dire sans les avoir lavées selon l'usage religieux. En effet, les pharisiens et tous les autres juifs obéissent à l'enseignement reçu de leurs ancêtres. Ils ne mangent pas sans s'être lavé les mains avec soin, et quand ils reviennent du marché, ils ne mangent pas sans s'être lavé d'abord. Ils obéissent à beaucoup d'autres coutumes qu'ils ont reçues, telles que la bonne manière de laver les coupes, les pots, les marmites de cuivre et les lits. Les pharisiens et les maîtres de la loi demandèrent donc à Jésus : Pourquoi tes disciples n'obéissent-ils pas à l'enseignement transmis par nos ancêtres, mais prennent-ils leur nourriture avec des mains impures ? Jésus leur dit : Ésaïe avait bien raison lorsqu'il prophétisait à votre sujet. Vous êtes des hypocrites, ainsi qu'il l'écrivait. Ce peuple, dit Dieu, m'honore avec les paroles, mais dans son cœur, il est très loin de moi. Le culte que ces gens me rendent est inutile, car ils enseignent des règles humaines comme si c'était mes prescriptions. Vous laissez de côté les commandements de Dieu, dit Jésus, pour obéir aux enseignements transmis par les hommes. Puis il ajouta, vous savez fort bien rejeter le commandement de Dieu pour vous en tenir à votre propre enseignement. Moïse a dit en effet, respecte ton père et ta mère, et aussi, celui qui dit du mal de son père ou de sa mère doit être mis à mort. Mais vous, vous enseignez que si un homme déclare à son père ou à sa mère, la part de mes biens que je pourrais utiliser pour t'aider est corban, ce qui signifie un don réservé pour Dieu, il n'a plus besoin d'aider son père ou sa mère. Vous le lui permettez. De cette façon, vous détruisez la valeur de la parole de Dieu par l'enseignement que vous vous transmettez les uns aux autres. Et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Puis Jésus appela de nouveau la foule et leur dit, « Écoutez-moi bien, vous tous, et comprenez ceci. Rien de ce qui entre en l'homme du dehors ne peut le rendre impur. C'est plutôt ce qui sort du cœur de l'homme qui le rend impur. Écoutez bien si vous avez des oreilles pour entendre. » Quand Jésus eut quitté la foule et fut entré dans la maison, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Et il leur dit, « Êtes-vous, vous aussi, incapables de comprendre? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui entre dans l'homme du dehors ne peut le rendre impur? Car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre et sort ensuite de son corps. » Par ces paroles, Jésus déclarait donc que tous les aliments peuvent être mangés. Et il dit encore, « C'est ce qui sort de l'homme qui le rend impur, car du dedans, du cœur de l'homme, viennent les mauvaises pensées qui le poussent à agir de façon immorale, à voler, à tuer, à commettre l'adultère, à vouloir ce qui est aux autres, à agir méchamment, à tromper, à vivre dans le désordre, à être jaloux, à dire du mal des autres, à être orgueilleux et insensé. » Toutes ces mauvaises choses sortent du dedans de l'homme et le rendent impur.
Depuis le début de l'évangile de Marc, nous voyons partout la puissance et l'autorité de Jésus. En effet, il nous a déjà fait rapporter que, par Jésus, des démons avaient été chassés, des lépreux et des aveugles avaient été guéris, la petite fille de Jaïrus s'était relevée de la mort. Les pertes de sang de la femme désespérée s'étaient arrêtées. Sous le commandement de Jésus, la tempête, le vent, la mer s'étaient calmées. Et alors que Jésus est à Génézareth avec ses disciples et qu'il opère de nombreux prodiges, on amène de toute la région des malades. Il leur suffit de toucher le vêtement de Jésus pour être guéri. quand on touche Jésus, on semble être contaminé par la guérison et par la vie. C'est dans ce contexte que des personnes, des vraies, des pures et dures, arrivent. Des pharisiens et des spécialistes font le déplacement depuis Jérusalem pour observer Jésus. Eux aussi, Marc nous les a déjà présentés. Ils ont déjà questionné Jésus sur pourquoi ses disciples glanaient du blé un jour de sabbat. Ils ont déjà comploté avec les amis d'Hérode pour savoir comment tuer Jésus. Jésus venait de guérir un lépreux. Prodigieuse guérison, oui, mais qui avait eu lieu un jour de sabbat. Ils ne viennent pas pour s'émerveiller de ce que Jésus est en train de faire. Ils viennent pour l'observer, ils viennent pour contrôler. Alors ils viennent et ils remarquent que quelque chose cloche. Les disciples de Jésus ne se sont pas lavé les mains selon les règles. Bon, après 2 années de Covid, nous aussi, si on voyait des gens manger sans se laver les mains, on fait le tour de la table avec notre gel hydroalcoolique. Mais ici, c'est pas vraiment une question d'hygiène qui est en cause. Leurs mains n'étaient pas nécessairement sales. C'est une question de pureté rituelle, de se laver les mains selon un certain protocole. Ils ne l'ont pas fait. Et ça, les pharisiens et les spécialistes de la loi ne peuvent pas le laisser passer. Pourquoi tes disciples ne se conforment-ils pas à la tradition de nos ancêtres? Pourquoi prennent-ils leur repas avec des mains impures? Les pharisiens, eux, respectent un grand nombre de règles. L'ensemble de leur vie est codifié. Ils sont jusque bouddhistes pour assurer leur sainteté. Ils veulent avoir la même sainteté dans leur vie quotidienne que celle qui était exigée des prêtres dans le temple, de ceux qui allaient offrir les sacrifices ou rentrer dans le Saint des Saints. Et sans même avoir été présent au moment de cette interaction, on peut imaginer leur tête quand Jésus leur a répondu « Hypocrite !» Ésaïe vous a bien décrit. Ce peuple m'honore des lèvres, mais au fond de son cœur, il est bien loin de moi. Le culte qu'il me rend n'a aucune valeur, car les enseignements qu'il donne ne sont que des règles inventées par les hommes. Hypocrites, ils sont bien plus attachés à leur tradition qu'à la parole même de Dieu. Et Jésus insiste vraiment, on peut retrouver cette insistance au verset 8, au verset 9, au verset 13. Ce qui compte, c'est la tradition, c'est la bonne façon de faire, comme ils ont toujours fait. Quitte à en oublier ce qui est au cœur de la loi, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Et c'est vraiment ces deux choses-là que Jésus va leur reprocher. Vous faites passer votre tradition avant la parole de Dieu. Votre cœur est éloigné de Dieu. Par la tradition, vous permettez aux gens d'éviter d'aider et de soutenir leur père et leur mère, sous couvert d'une offrande au temple. Jésus peut les interpeller sur leur attachement à Dieu et leur amour du prochain. Eux s'attachent à la pureté extérieure. Et qu'en est-il de nous? Quel est notre rapport à la pureté? Et même, est-ce que ça nous intéresse? Pour être honnête, quand je me suis arrêtée sur ce texte et que je l'ai travaillé, je me suis imaginée dire « ce matin, on va parler de la pureté » et toute l'assemblée sourire, parce que je sais que c'est une assemblée très sympathique, et se dire « Et en même temps, je me suis rendu compte que, paradoxalement, on est parfois un tout petit peu comme ces pharisiens. Parfois, on est prompt à regarder ce que les autres ne font pas bien, pas comme il faut, pas comme il devrait. Je me suis déjà entendu plein de fois dire « Je comprends pas comment des chrétiens peuvent faire ça. » Plutôt que de regarder ce que Dieu est en train de faire dans la vie de ces personnes. Comme des pharisiens qui semblent passer complètement à côté de ce qui se passe quand des hommes et des femmes croisent le chemin de Jésus. Il nous arrive aussi d'aimer rajouter des règles, d'élever nos standards. Et si les pharisiens étaient obsédés par la pureté rituelle, il semble que nous, évangéliques, soyons obsédés par la pureté sexuelle. J'ai cherché sur Google « sermon sur la pureté », j'ai cherché en anglais, la vaste majorité ne concernait que cet aspect-là. Et si Jésus évoque l'adultère ou l'immoralité, il n'est certainement pas concerné que par ça. Il regarde à l'être humain dans sa globalité. Nous attribuons parfois une auréole à ce dont les enfants se comportent bien, au culte, à ceux qui arrivent à arriver en avance, ceux qui connaissent très bien leur Bible, qui peuvent la citer avec précision, sans sourciller. Les pharisiens et les spécialistes de la loi connaissaient très bien la Torah. Et il n'y a aucun doute qu'ils savaient exactement à quel passage Jésus faisait référence quand il a cité Ésaïe. Mais la connaissance intellectuelle ne suffit pas à changer le cœur. Le cœur, c'est là que Jésus va centrer son attention pour nous parler de la pureté qui aime. Son propos est important. On le sait parce qu'il dit à la foule, il rassemble la foule et leur dit « Écoutez-moi tous, comprenez bien, rien de ce qui pénètre dans l'homme ne peut le rendre impur. C'est au contraire ce qui sort de l'homme qui le rend impur. » Et notez bien, il appelle la foule et leur dit « Comprenez bien. » Et la scène d'après, on le retrouve avec ses disciples qui lèvent la main parce qu'ils n'ont rien compris. En même temps, Jésus vient de secouer leur système de pensée et leur façon de vivre. Si la question du lavement des mains était un rituel ajouté par la tradition, les règles alimentaires faisaient partie de la loi donnée par Dieu. Tous les juifs, pas seulement les pharisiens, s'abstenaient de certains aliments, de certaines viandes en particulier. Cela faisait partie des lois qui encadraient la pureté rituelle. Mais ce qui se passe, c'est que Jésus leur annonce le dépassement de ce système, qui arrive avec son sacrifice. Les lois rituelles avaient été données au peuple pour plusieurs raisons, je ne vais pas rentrer dans le détail ici, mais pour rappeler notamment au peuple que Dieu est un Dieu saint devant lequel on devait se présenter pur. Et il faut noter que dans la loi, une personne qui était impure pouvait redevenir pure. Par exemple, un lépreux, une fois qu'il était guéri, allait se montrer au prêtre, exercer un sacrifice, et il pouvait reprendre la vie communautaire et la vie culturelle. Mais avec Jésus, ce système va prendre fin. Par son sacrifice à lui, à la croix. Et c'est quand nous nous plaçons sous le sacrifice de Jésus que nous devenons, une fois pour toutes, rituellement purs. Ce qui nous évite de sacrifier des animaux, ce qui est pratique et nous empêche d'avoir pas mal de problèmes avec les associations de défense des animaux. Non mais plus sérieusement, je vous lis quelques versets en hébreu 9 qui vont mieux expliquer que moi ce que Jésus a fait. Quand le Christ est entré, une fois pour toutes, dans le lieu très saint, il n'a pas offert du sang de bouc et de veau, il a offert son propre sang. Et il a permis ainsi une libération définitive. Le sang des boucs et des taureaux, et les cendres de vaches brûlées que l'on répand sur les personnes impures, purifient leur corps pour les rétablir dans leur relation à Dieu. Combien plus efficace est le sang du Christ ? Par l'Esprit éternel, lui qui était sans défaut, il s'est offert lui-même à Dieu. Son sang purifiera notre conscience des actions qui conduisent à la mort pour que nous puissions rendre un culte au Dieu vivant. Jésus, préannonçant que la question de la pureté rituelle allait être réglée une fois pour toutes, montre que ce qui l'intéresse, c'est la pureté du cœur. Peu importe ce qu'on mange, ça passe dans notre estomac et ça part aux toilettes. Ça n'impacte pas qui l'on est. Comment on pense, combien on aime Dieu, comment on agit avec les autres. Et c'est ça qui intéresse Jésus. Mais Jésus n'était pas naïf sur l'état du cœur humain. Ce qui saoule l'homme, c'est les pensées mauvaises, l'immoralité, le vol, le meurtre, les adultères, l'envie, la méchanceté, la tromperie, le vice, la jalousie, le blasphème, l'orgueil, et toutes sortes de comportements insensés. Tout ce mal sort du dedans de l'homme et le rend impur. Et il y a là une bonne et une mauvaise nouvelle. L'impureté est à l'intérieur de l'homme, dès sa naissance. On ne perd pas sa pureté. On ne peut pas faire une erreur et hop, on est impur. On est impur. Mais on peut devenir pur. On peut devenir pur, rituellement, en se plaçant en Christ, sous son sacrifice, une fois pour toutes. Ce qui nous permet de toujours pouvoir nous approcher du Dieu saint. Puis, nos cœurs et nos manières de vivre sont progressivement purifiés par Jésus. Mais car ces choses-là, les pensées mauvaises, le vice, la jalousie, l'orgueil, on peut essayer de les manager aussi bien que mal. On peut essayer d'avoir sur ça un minimum de contrôle. Mais en réalité, livrés à nous-mêmes, on est démunis d'une véritable solution. Il est beaucoup plus facile de s'assurer qu'on s'est bien lavé les mains que de ne plus ressentir d'orgueil ou de jalousie. Après, on peut toujours se dire qu'on n'a jamais commis un meurtre. Du moins, j'espère. Mais c'est sur cette pureté-là que Jésus va élever la barre. Il a enseigné la gravité de traiter son frère d'imbécile. Là où les pharisiens avaient poussé à l'extrême l'exigence rituelle, Jésus élève la loi supérieure de l'amour. ce qui nous rend impurs, ce qui nous souille, c'est tout ce qu'il y a en nous qui n'est pas conduit par l'amour de Dieu et des autres. Et pour que ces impuretés sortent de nous, nous avons besoin de l'œuvre du Christ par son Saint-Esprit, dans nos cœurs. Et je nous laisse observer cette liste un instant, pour savoir peut-être là où on a besoin de demander à Jésus de nous purifier aujourd'hui dans nos vies. Et puis, on ne voit pas forcément en regardant que ce texte, mais Jésus nous emmène un peu plus loin. Il nous parle d'une pureté qui fait du bien aux autres, qui s'ouvre, qui se partage. Il fait tomber une autre barrière en faisant tomber cette question de la pureté rituelle. Jésus nous amène à réaliser que la pureté ne devrait pas être une occasion de mettre les autres à l'écart. Pour les juifs de l'époque, il y avait tellement de règles, notamment autour du repas, qu'il était impossible pour eux d'envisager manger avec des païens ou des gens de mauvaise vie. Ils craignaient d'être contaminés par eux. Alors pour se préserver, il fallait cultiver l'entre-soi. Mais ce texte amène une ouverture. Et on le voit quand on observe particulièrement un mot, et je suis désolée parce qu'il fait chaud et qu'on est un peu fatigué, mais restez avec moi, c'est vraiment pas juste pour le plaisir de vous montrer que j'ai fait de la théologie que je fais pas. Rendre impur ici, c'est le mot koinō. Et ce mot, en fait, il est très peu utilisé dans le Nouveau Testament. Il y a d'autres mots qui sont utilisés pour impur, mais ce mot-là, il est très peu utilisé. Il est utilisé ici, et en Matthieu dans le récit parallèle. Et dans notre épisode, et comme dans Matthieu, après cette discussion avec les pharisiens et cette explication aux disciples, il y a l'épisode de la rencontre avec la femme syrophénicienne. Je ne sais pas si cet épisode vous parle, à certains oui, peut-être à d'autres non, mais cette femme syrophénicienne a un problème. Sa fille est possédée et elle vient à Jésus. Et Jésus la rembarre assez directement parce qu'elle n'est pas juive. Mais devant son insistance, sa persistance qui montre sa foi, il l'exauce et sa fille est délivrée. Et cette scène, elle semble très surprenante et presque, on se demande si c'est pas pédagogique ce que Jésus est en train de faire auprès de ses disciples, de la refuser comme ça parce qu'elle est non-juive et d'accéder à sa demande devant la foi dont elle fait preuve. Donc à ce moment-là, on retrouve ce terme-là. Et on le retrouve à un autre moment, on ne le retrouve plus dans les évangiles, ce terme, koinō, on le retrouve à un autre moment, dans Actes, quand Pierre est sur le toit en train de prier et que descend la nappe, est-ce que ça vous parle? Descend la nappe et face à lui sont tous les animaux impurs selon la loi. Et il prie et la voix lui dit « Mange !» Mais je ne peux pas. Ne déclare pas impur ce que moi j'ai déclaré pur. Et là arrivent des hommes qui vont venir le chercher et l'emmener chez Corneille, qui est un païen. Et c'est là où on va voir l'Église s'ouvrir réellement pour la première fois aux païens. Donc avant que Jésus fasse tomber quand Jésus fait tomber ses lois sur qu'est-ce qu'on peut manger ou pas, on voit une ouverture de son ministère aux païens. Quand Pierre se fait interpeller sur qu'est-ce qu'on peut manger ou pas, qu'est-ce qui est pur ou impur, et que Dieu fait tomber cette barrière devant lui, on voit l'Église s'ouvrir aux païens. Et je vais même vous emmener un tout petit peu plus loin, restez avec moi, notre texte en Marc 7 est au milieu d'un sandwich. Marc aime bien faire des sandwichs. En plus, on parle de nourriture, ça tombe bien. Il y a plusieurs fois dans Marc, des choses qui arrivent en doublon, et ce qui nous intéresse, c'est ce qui est au milieu. Vous vous souvenez dans quel chapitre on est ? 7. En Marc 6, il y a la première multiplication des pains. Nous avons Marc 7, et bien en Marc 8, la deuxième multiplication des pains, qui a une particularité, c'est qu'elle se fait en terre païenne. Non seulement ils vont manger avec des païens, mais ils vont leur servir à manger. En faisant tomber toutes ces règles, on peut voir que l'Évangile, que Dieu est pour tous, que l'accès à Dieu est pour tous, juifs ou non-juifs. Les règles de pureté étaient là pour montrer la particularité du peuple de Dieu et de son Dieu. Mais ce peuple particulier a toujours eu vocation à être une lumière et une bénédiction pour les peuples alentour. Pas un peuple qui veut vivre à part, à distance, clos, en jugeant du haut le reste du monde, Pas un peuple habillé de blanc, si pur, qu'il ne veut pas bouger pour éviter de se salir. Non, un peuple pur qui va vers les autres. Je pense que ça doit nous faire réfléchir aujourd'hui. Nous sommes appelés à être purs. Nous avons envie d'être purs. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Mais la pureté des chrétiens ne devrait jamais renfermer l'Église sur elle-même, mais la rendre éclatante et attirante. Il ne s'agit pas de construire des barrières pour préserver notre sainteté. Il ne s'agit pas d'être des personnes mieux que les autres. Il ne s'agit pas de se tenir à l'écart pour garder nos standards. Il s'agit de se laisser transformer par Jésus. Il s'agit d'inviter à notre table tous ceux qui sont autour pour qu'ils puissent voir ce que c'est. Une communauté dont les membres ont le cœur purifié jour après jour par le Christ, pour que du milieu d'eux disparaissent l'immoralité, le vice, le blasphème, la jalousie, l'orgueil, le mensonge, et abonde sa grâce, sa vérité et son amour. Alors je vous invite à vous poser cette question avec moi. Quel est notre prochain pas, à chacun, pour devenir ensemble une église dont la pureté de cœur fait du bien, encourage, bénit, est une lumière pour ceux qui sont autour? Oui, parce que le peuple pur est appelé à faire du bien. C'est ce que Paul nous rappelle en Tite 2. Jésus a donné sa vie pour nous, afin de nous libérer de tout mal. Il a voulu faire de nous un peuple pur. Un peuple qui soit à lui. Un peuple toujours prêt à faire le bien. Prions. Seigneur Jésus, notre rapport à la pureté peut être complexe. Parce que parfois on ne se sent pas pur, pas digne de toi. Et Seigneur, ça c'est des mensonges qui sont dans nos vies. Parce que on est digne de rien, mais tu nous as purifiés et nous pouvons venir à toi. Et Seigneur, on te demande de continuer ce travail dans nos vies. De continuer à nous purifier par ton Saint-Esprit qui vient en nous. Pour faire grandir son fruit, pour faire grandir l'amour, la grâce, la paix, la maîtrise de soi dans nos vies. Seigneur, on veut cela, pas pour être de meilleures personnes, pas pour pouvoir parader fièrement dans nos tunes blanches, mais Seigneur, pour mieux aimer notre prochain, pour être un peuple dont la manière de vivre interpelle et amène plus de gens à toi, pour qu'eux-mêmes puissent être purifiés. Seigneur, merci parce que la seule chose à laquelle on peut être contaminé à ton contact, Seigneur, c'est l'amour, c'est la bonté, c'est la bienveillance, c'est la paix, c'est ta justice. Alors nous pouvons nous tenir près de toi. Amen. Pendant que l'équipe prend place, je vous invite à vous lever et à chanter ensemble.